Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient sur vous tout au long de cette année, la vie en abondance, grâce sur grâce, nous dit l'Évangile. Tendresse de Dieu, sa paix, ses encouragements, comme un don de sa part de Dieu, source de vie, vie qui l'emporte sur toutes les négativités dans notre existence. Et c'est vers lui que nous faisons monter notre louange avec le chant, dont je vous propose de chanter ensemble au numéro 7, c'est le psaume 8, qui célèbre l'Éternel pour l'incroyable merveille que nous sommes. Les quatre premières strophes. En Christ, l'amour de Dieu nous a été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette célèbre prière du psaume 130, psaume des montées. Des profondeurs, je crie vers toi, ô Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. Aussi j'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Et ainsi que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond de leur conscience la certitude de son amour pour eux et la grâce d'une vie renouvelée. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour et de tendresse, vous êtes heureux car votre Père vous aime et vous pardonne en Jésus-Christ. Et ainsi que tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent de lui cette présence de l'Esprit-Saint au plus profond de leur être. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le cantique numéro 272, « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce numéro 272, comme on dit en suisse, 272.
Thank you.
Une multitude de passages des évangiles ont embelli la vie humaine, ont réconcilié les humains entre eux, ont réconcilié les humains avec leur Dieu. De nombreux versets nous encouragent et nous inspirent dans ces textes anciens, mais quelques versets des évangiles sont plus difficiles. Quelques versets sont même, malheureusement, vraiment dangereux à cause d'interprétations malheureuses qu'ils permettent. Un des passages les plus difficiles et les plus dangereux, à mon avis, est une parole attribuée à Jésus, une parole qui se trouve non pas à un coin quelque part obscur d'un fond d'une épître, mais dans les quatre évangiles, unanimement pour une fois, même à plusieurs reprises dans certains évangiles, une parole de Jésus qui peut laisser penser qu'il faudrait sacrifier notre vie, peut-être pour mieux plaire à Dieu. Par exemple, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 8, les versets 34 à 37. Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. En effet, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Par contre, quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. En effet, à quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier et de voir sa vie être dévastée? Que donnerait un être humain en échange de sa vie ? Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alors selon l'évangile, faudrait-il vraiment haïr et perdre sa vie pour la sauver? C'est pourtant ce que laisse penser cette parole de Jésus. Bien sûr que non, car Jésus, lui, sans cesse, dans les évangiles, on le voit relever, consoler, encourager, soulager, soigner chacune et chacun, pour rendre la vie plus belle. Il n'est pas du tout du genre à nous encourager à sacrifier cette vie présente pour gagner la vie future. Lui-même ne le fait pas. Il aime la vie en ce monde. Alors comment comprendre ces paroles? Sans doute y a-t-il derrière une bonne nouvelle. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, cet enseignement commence donc par la liberté. Une vraie liberté. Personne n'est obligé de suivre Jésus. Il n'y a pas de chantage. Comme le dit Jean dans sa première lettre, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque est capable donc d'un beau geste gratuit pour une personne est donc frère ou sœur de Jésus-Christ, que ce soit grâce à l'Évangile ou sans l'Évangile. Jésus part donc du fait que les personnes qui se sont rassemblés là, autour de lui, sont intéressés par le fait de le suivre. Et il explique comment lui, il avance. Et ce n'est pas si facile à expliquer, à faire sentir, en fait. La réponse de Jésus semble énigmatique, difficile. En soi, ça montre, à mon avis déjà, le vrai respect et l'ambition que Jésus a pour ces personnes, parce qu'elles cherchent à le suivre. Ils le connaissent donc déjà un peu, ce qu'il leur dit maintenant semble contredire tout ce qu'ils ont entendu et vu auparavant de lui. Ces paroles de Jésus sont à un autre niveau, elles invitent à se creuser la tête, elles expliquent par quel cheminement Jésus en est arrivé à être capable de cette belle façon d'être qui les a attirés, qui les a touchés et qui les a fait venir auprès de lui. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il se renie lui-même. Se renier soi-même, le verbe dans le grec de l'évangile est fort, c'est le verbe arneomai, renier, qui est même renforcé ici par une particule qui veut dire comme le rejet, ap arneomai. Dans la version de l'évangile selon Jean, il y a même un appel à haïr sa propre vie. Alors évidemment, c'est choquant. Je ne sais pas comment vous avez réagi quand, dans votre propre lecture de l'Évangile, vous avez buté contre ces paroles difficiles. Peut-être en passant dessus, en vous disant que ce n'est pas grave, vous ne compreniez pas, ou bien en vous disant non, je ne suis pas du tout d'accord avec ces paroles. On a le droit de réagir comme ça, bien sûr, en lisant les Évangiles, en lisant la Bible. Mais peut-être que vous avez trouvé une façon de comprendre ces paroles difficiles et d'arriver à les mettre en cohérence avec l'Évangile, avec les autres paroles et gestes de Jésus-Christ qui montrent l'infinie valeur que nous avons aux yeux de Dieu, qui ne nous rejette pas comme semble inviter cette parole, et puis aussi l'incroyable valeur de chacune de nos journées. Volonté de Dieu aussi pour rendre notre vie plus profonde et plus belle encore. Alors si vous avez trouvé une solution pour comprendre ces paroles difficiles, je suis preneur pour enrichir les deux solutions que je vais vous proposer pour les comprendre. Alors la première solution que je vous propose pour comprendre ce « reniez-vous, reniez votre propre vie finalement » est d'ordre psychologique. Pour se sentir bien et pour agir bien, comment faire, se demande le grand mystique allemand du XIIIe, XIVe siècle, Maître Eckhart. La question, dit-il, n'est pas de posséder ou d'abandonner des choses, la question n'est pas d'être ici ou d'être ailleurs, la question n'est pas de rester seul dans la solitude, dans un ermitage ou d'être au milieu du monde. La question, nous dit-il, elle est en nous-mêmes. Elle est dans la propre disposition par rapport à nous-mêmes. C'est là que sont nos entraves. Et pour progresser, pour avancer, il nous donne ce conseil : veille sur toi-même, et là où tu te trouves, laisse-toi, abandonne-toi, cela vaut mieux que tout. Alors c'est un sage conseil : veiller sur soi-même, y discerner les images de nous-mêmes que nous nous formons, et ne pas nous enfermer dans ces images, renoncer à ces images de nous-mêmes que nous avons, les envoyer balader. Car nous nous faisons des idées sur ce que nous pensons être, nous faisons nos idées peut-être sur ce que nous devrions être, sur ce que d'autres personnes pensent de nous. Eh bien, tout ça, c'est des freins, des obstacles, des entraves. Et c'est une grande libération que d'abandonner ces images. De toute façon, l'Évangile nous dit que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et dans cette confiance à lui, nous pouvons plus facilement nous accepter tel que nous sommes en réalité. Eckhart, donc, ce grand mystique, nous propose « Veille sur toi-même et là où tu te trouves, laisse-toi, abandonne-toi, cela vaut mieux que tout. » C'est une première délivrance, en fait. C'est ce qui permet à Jésus lui-même d'être si libre, si spontané et d'avancer. Il guérit quand ça ne devrait pas être fait, le jour du sabbat. Il va chez qui il ne devrait pas aller, des trop religieux, des pécheurs. Il est un bien déroutant Messie, juste avant ce passage. De l'évangile que je vous ai lu, on voit Pierre refuser qu'il soit un Messie comme il est. Et donc se renier soi-même, c'est ainsi peut-être avant tout renoncer de s'imposer de fausses images de ce que nous devrions être. Søren Kierkegaard, c'est donc un grand spécialiste du désespoir, il a même écrit donc un traité sur le désespoir, et il dit que celui qui est vraiment désespéré, c'est celui qui veut se défaire de soi-même. Alors il explique ce désespoir ainsi. C'est désirer sans cesse être ce que nous ne sommes pas, et c'est ne pas consentir à être ce que nous sommes en réalité. Alors Jésus ne nous propose pas de renoncer à notre être, mais il propose de sortir de ce désespoir, de sortir de ces fausses images, d'arriver à s'accepter soi-même en réalité. Et la foi est d'un grand secours pour ça, car comment arriver à consentir à être ce que nous sommes en réalité, bien que nous ne soyons pas parfaits, évidemment. La bonne nouvelle du Christ est que déjà j'ai été regardé par Dieu et qu'il m'a jugé digne de lui. Nous avons passé le test d'aptitude et nous avons été reçus, et donc cela est un grand encouragement, cela suffit. Nous pouvons donc veiller sur nous-mêmes, comme le propose Eckhart, saisir notre propre valeur, nos talents, nos dons, balancer au loin les fausses images que nous avons de nous-mêmes, et puis rester ainsi souple, ouvert à ce que notre conscience éclairée par Dieu nous appellera à faire, même si ce n'était pas du tout dans nos plans, dans ce que nous imaginions devoir être, devoir faire. C'est la première interprétation que je vous propose, donc rejeter les fausses images que nous avons de nous-mêmes. Je tire une seconde interprétation possible de cet appel de Jésus à se renier soi-même, d'une bien intéressante image que Martin Luther a donnée du péché, notion obscure et bien entendu pénible s'il en est. Luther dit que le péché est d'être si concentré sur son propre nombril que l'humain se courbe, s'incurve tellement qu'il est comme replié en lui-même. L'homme pécheur est « in curvatus in se », dit Luther en latin. Cette image du péché est intéressante car le péché n'est alors pas d'abord et avant tout une question d'acte, mais une question de posture vis-à-vis de nous-mêmes. L'invitation de Jésus à se renier soi-même n'est pas à comprendre comme un sacrifice de soi. Bien au contraire, elle est un changement de posture. Quand nous sommes toutes incurvées à l'intérieur de nous-mêmes, Jésus nous appelle à renoncer à avoir les yeux comme enfoncés dans notre propre nombril. C'est un appel à se décourber, à se redresser, à découvrir qu'il y a d'autres personnes autour de nous, qu'il y a un monde qui nous entoure avec ses merveilles, peut-être avec ses souffrances aussi, et que nous avons un Dieu. La vie, quand on est ainsi décourbé, prend une toute autre tournure. Cette image de l'homme courbé ou incurvé en lui-même, Martin Luther, en fait, la tire de saint Augustin, mais Luther est bien plus radical. C'est le défaut de ses qualités. Pour nous guérir de cette courbure en nous-mêmes, il propose de nous amputer de tout amour de nous-mêmes. S'inspirant de la très radicale version de ces paroles difficiles de Jésus que donne l'Évangile selon Jean, appelé à haïr sa propre vie, et à mon avis qu'on peut comprendre un peu comme je vous le dis ici, dans la même façon, hein. Donc Luther dit que la seule façon de vraiment s'aimer soi-même, c'est de se haïr. C'est à mon avis un peu plus que d'être décourbé, c'est être passé au laminoir pour être vraiment bien droit. Saint Augustin est plus fin et nuancé à mon avis, et Calvin aussi à sa suite. Il me semble que c'est effectivement plus fidèle d'être nuancé, plus fidèle à ce célèbre appel de Jésus à aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le projet, c'est d'avoir un juste amour de nous-mêmes. Avec l'aide de Dieu, cela peut effectivement se travailler. Et donc, en prenant conscience de notre réelle et vraie valeur, grâce à l'amour de Dieu, nous pouvons prendre courage pour nous dérouler, le courage d'avoir un regard levé, non pas seulement déjà vers le sol, ce qui serait déjà un progrès, mais vers le monde alentour, et puis se découvrir capable de compassion pour des personnes que nous voyons, et puis avoir envie de remercier notre Créateur pour la merveille de la vie en ce monde. Se renier soi-même, c'est donc se redresser pour vivre sa propre vie, sa vocation et sa foi. L'homme recourbé en lui-même, ce n'est pas seulement l'égoïste ou l'orgueilleux, c'est aussi le désespéré, le peu sûr de lui, le superficiel, l'endormi. Pour Augustin, notre problème, c'est pas tant d'avoir été infecté par des mauvais esprits ou par des virus de ces difficultés, c'est pas tellement que nous devrions être amputés, se faire arracher l'amour de soi, comme le suggère Luther. Notre problème, c'est plutôt un manque de bien, un bien dont Dieu vient nous sauver, vient nous apporter en Jésus-Christ. Nous serions alors plutôt enfermés sur nous-mêmes, mais comme un bourgeon de fleurs encore tout refermé, attendant la lumière et la chaleur pour s'ouvrir. De même, nous attendons un amour, celui de Dieu, pour nous ouvrir. Et ce renoncement de soi ne consiste pas donc à arracher notre amour de nous-mêmes, mais à l'épanouir et qu'il se fasse beauté et parfum alentour. Pour cela, nous devons renoncer effectivement à notre nombril et aussi renoncer à ce que nous étions hier. Parce qu'effectivement, dans la croissance de l'enfant, par exemple, quand il rêve d'être un adulte, il se voit comme plus grand, plus fort, plus libre, mais tout en continuant à avoir l'insouciance de l'enfant pour jouer avec ses jouets. Mais l'adulte, c'est pas un enfant grandi à la loupe. Il existe des paramètres nouveaux que l'enfant ne découvrira que plus tard, quand il deviendra adulte. Et donc, pour reprendre l'image de Jésus, par exemple, dans la parabole du semeur, la graine jetée en terre, elle doit renoncer à être graine. Dans un sens, elle meurt, mais pour germer, pour pousser, pour devenir une plante qui grandit et qui porte du fruit. Nous sommes un embryon d'humain, nous dit Jacques dans sa lettre. Alors, ne nous culpabilisons pas de nos trop lents progrès, de notre fermeture. La plante semble ne pas pousser, mais quand on la regarde, elle semble ne pas pousser, mais pourtant, elle pousse sans que l'on sache comment, nous dit Jésus, jour et nuit, même quand nous dormons. Alors Jésus nous propose donc de nous renier nous-mêmes et il ajoute « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. » Donc voilà maintenant qu'après nous avoir appelés à nous renier nous-mêmes, il semble nous appeler à la mort, au sacrifice de nous-mêmes. Alors ce texte a malheureusement servi à quelques-uns pour justifier la souffrance comme une bonne chose, la souffrance de Jésus qui serait rédemptrice et puis la nôtre aussi qui serait une souffrance qui peut être utile. Dieu serait, pour les personnes qui ont cette interprétation, une sorte de terrifiant Moloch dont la justice a faim de sacrifices humains, même d'un juste comme Jésus. C'est épouvantable. C'est tout l'inverse de l'évangile du Christ, où l'amour de Dieu, évidemment, n'a pas besoin d'être acheté ni par des sacrifices, ni par des souffrances, ni par la mort, bien entendu, parce que tout amour vrai ne s'achète pas, il se donne. Et donc Dieu pardonne et bénit gratuitement, évidemment. L'évangile, c'est que Dieu ne veut qu'une chose pour chacun de nous, le bonheur et la vie, le minimum de souffrances, de difficultés. Le projet de Dieu et du Christ, ce sont les larmes consolées, c'est les inquiétudes calmées, c'est les injustices réparées, les désespérés réconfortés, soulagés, encouragés, mis debout. Cet appel de Jésus à nous charger de notre croix et de le suivre est donc tout autre chose que de chercher le martyre. Ce n'est pas non plus accepter notre propre souffrance, notre lot de misère, sans rien faire pour l'éradiquer, encore moins accepter la souffrance des autres autour de nous. Ce n'est pas non plus méditer sur les souffrances du pauvre Jésus au point que notre cœur saigne de ses propres souffrances. En effet, il n'est pas dit ici que nous devrions porter la croix de Jésus. Il n'est pas non plus dit que nous devrions nous laisser porter par la croix, nous laisser crucifier C'est l'inverse qui est proposé. C'est de porter notre propre croix, littéralement d'élever notre propre croix et ainsi arracher de terre, peut-être arriver à suivre Jésus, à avancer. Luc précise de porter, d'élever notre croix de tous les jours, et c'est vrai, de chaque jour. Et c'est vrai que les soucis, les souffrances, les inquiétudes de chaque jour sont souvent bien plus difficiles à porter qu'un grand coup d'héroïsme que nous serions peut-être capables d'avoir plus facilement, en fait. Alors que faire face à cette souffrance quotidienne usante ? Les stoïciens proposaient de se rendre indifférent à la souffrance. Jésus, lui, au contraire, il s'indigne de la souffrance et il la combat. Que ce soit sa propre fatigue, par exemple, ou que ce soit sa souffrance à lui, que ce soit la souffrance de ceux qu'il croise et qu'il essaye de soulager. C'est effectivement ce que ça coûte d'être sensible à la souffrance de ceux qui sont autour de nous, que de cesser d'être in curvatus in se, d'être recourbé sur notre, à l'intérieur de notre propre nombril. Alors que faire ? Jésus nous propose de reconnaître notre propre souffrance, de la prendre à bras le corps et de l'élever. C'est ce qu'il fait dans la prière à son Père pour sa propre souffrance dans le jardin de Gethsémané, et il pleure qu'elle soit inévitable. Mais quand il peut l'éviter, il l'évite. Je ne sais pas comment. Par exemple, quand il arrive à s'échapper à plusieurs reprises, quand une foule l'entourait pour le lapider ou pour le jeter du haut d'une falaise. Parfois, il arrive aussi à soulager la souffrance des personnes qu'il rencontre, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y arrive pas, nous dit l'Évangile. Mais à chaque fois qu'il arrive à chasser la souffrance, eh bien, c'est comme un prodige, quelque chose qui nous dépasse, qui vient de lui et de plus grand que lui. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Et donc, il est spécialement difficile d'élever notre croix quotidienne, car nous avons pu peut-être nous y accoutumer au point de la considérer comme étant une part de nous-mêmes, une part de notre vie, de notre personnalité. Et donc, il est difficile de s'en détacher. Mais c'est pourtant bien ce qu'il faut arriver à faire, et c'est ce que Dieu nous aide à faire, de renoncer à cette souffrance qui est une part de nous-mêmes, la mettre à distance, l'identifier comme étant une croix, c'est-à-dire une torture abjecte, arriver à l'élever, peut-être pour en mieux en voir les racines, pour arriver à mieux la combattre, en amont de la souffrance. L'élever à Dieu pour lui demander aussi, lui en demander des comptes par exemple, puis découvrir que Dieu n'est pas derrière cette souffrance, mais à nos côtés, contre cette souffrance, et pour nous aider ensemble, lui et nous, peut-être à la faire reculer quand cela est possible. Et donc le contrepoison au désespoir n'est pas le renoncement, ce n'est pas l'abnégation ou l'abandon de soi, ce n'est pas oublier la souffrance en faisant du vide en soi par la méditation, ce n'est pas non plus un lâcher-prise. Le contrepoison à notre croix de ce jour, c'est la confiance dans ce quelque chose de plus grand, de plus haut que tout ce qui nous fait souffrir. Même la croix du juste ultime qu'est Jésus, portée et élevée au sommet du Golgotha, a pu être dépassée. Trouver ou recevoir ainsi la force de faire un pas, et puis la force du pas suivant. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive ainsi, nous dit Jésus. Suivre le Christ, ce n'est donc pas adopter sa doctrine sans discuter, ce n'est pas le suivre comme un petit chien. Effectivement, la preuve, c'est que juste après ce texte, Jésus prend trois de ses disciples, trois seulement, Pierre, Jacques et Jean, pour faire une promenade en montagne. Il a libéré les autres pour vivre leur propre vie. Et donc, le suivre, c'est une question d'inspiration, c'est s'inspirer de son pas souple et endurant. décrit avec ces curieuses et difficiles images de se renier soi-même et de porter, d'élever sa propre croix. Les quatre évangélistes ont alors des versions différentes et complémentaires pour parler de cette vie qu'on reçoit en vivant cette démarche. C'est une vie sauvée, nous dit Marc. C'est une vie trouvée, nous dit Matthieu. C'est une vie vivifiante, nous dit Luc. C'est une vie si vivante qu'elle sera conservée sous une autre forme pour l'éternité, nous dit Jean. Amen. Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce, en tout temps et en tout lieu, ô Dieu, Père éternel et saint, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec tous les fidèles, au-delà des générations et des horizons, en une joie commune, nous crions la grandeur de ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. Partout sur cette terre rayonne de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors dans l'Évangile selon Matthieu, il y a le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Nous prions Dieu. Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, viens toi-même la présider. Donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence et ta paix. Veuille, par l'action de ton Saint-Esprit, nous donner communion avec les paroles et avec la vie de ton Fils, Jésus-Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et ce vin la joie que tu veux pour chacun de nous. Que ce repas nous introduise dans ce royaume qu'avec toi nous chercherons à construire et qu'ainsi pas une seule personne en ce monde ne reste sans secours. Tous, nous sommes enfants de toi, notre Dieu, nés par ton souffle et de la même terre, nous osons te prier comme le Christ nous l'a enseigné, comme étant notre Père, notre Mère qui es aux cieux, qui fait de chacun de nous des frères et des sœurs en ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de vous unir dans ce chant cantique numéro 343, où Jésus te nous appelle à former un même corps. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et c'est en signe de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire. Mais cela dit, ce n'est pas non plus obligatoire de participer à ce geste. Chacun fait comme il lui semble bon. Néanmoins, nous pouvons nous mettre, ceux qui le désirent, en rond autour de cette table pour prendre le pain et ou boire dans la coupe de vin ou de jus de raisin. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacune et chacun d'entre nous. nous rendons grâce à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Alors oui, nous bénirons l'Éternel tant que nous vivrons, nous célébrerons notre Dieu tout au long de notre existence. Amen. Allez dans la paix du Christ. Est-ce qu'il y a des annonces ?
Le moment des annonces. Tout d'abord, merci à Marc Pernaud d'être parmi nous. Nous avons matière à réflexion pour toute cette semaine et au-delà, je crois. Merci beaucoup. Alors, dimanche 20 janvier, 17h, à la chapelle de Champelle, renouveau et guérison dans l'église. À 17h30, au Temple des Eaux Vives, concert Fluviorgue. Vous avez des papillons à la sortie, là, sur la table qui est là-bas à ma droite, qui vous donne un petit peu les heures de ces rencontres. Bon, il se trouve que le culte de Champelle, de renouveau et guérison dans l'église, tombe à peu près en même temps que le concert Fluviorgue. Mais vous verrez qu'une autre date pour Fluviorgue est proposée, et au fait, c'est aujourd'hui même au Temple de Jussy à 17h30. Voilà, si vous avez envie d'assister aux deux, il y a cette possibilité. Dimanche 27 janvier, 9h45, à la maison de paroisse des Eaux Vives, nous commencerons notre journée de prière pour l'unité des chrétiens par un accueil avec un café croissant. Un tout petit moment de méditation là à la maison de paroisse, puis nous partirons tous ensemble avec nos amis de Saint-Joseph à 10h30. Nous marcherons ensemble jusqu'à l'église de Saint-Joseph où aura lieu une célébration commune, donc dans l'église de Saint-Joseph, avec le pasteur Beau et l'abbé Passera. Il y a aussi une feuille à la sortie du culte. Je vous recommande vivement cette rencontre. Nous n'avions pas eu l'année dernière de rencontre lors de la journée de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous avons désiré cette année renouer avec cette tradition vivante qui a été vécue des années consécutives aux Eaux Vives sous plusieurs formes. Elle sera simplifiée cette fois, c'est simplement une célébration commune ensemble. Et le dimanche, les dimanches de février, voilà, on y arrive, prenez le flyer à la sortie parce que vous avez le programme des concerts des Eaux Vives. Vous vous souvenez, chaque année, tous les dimanches de février, nous avons des concerts à 17h. Voilà une tradition que nous gardons, qui a du succès, et je vous la recommande vivement. Dans un petit moment, à la sortie du culte, l'après-culte, à la maison de paroisse.
Alors, il y a aussi samedi prochain, donc à Bourg-de-Four, donc la maison de paroisse de la cathédrale, il y a 18h, il y a une rencontre avec les chrétiens de Gaza, un professeur, un chirurgien, Christophe Oberlin, qui fait de l'action humanitaire à Gaza depuis 20 ans, fera une conférence. Ça sera suivi d'un repas syro-libanais préparé par des femmes réfugiées. Et puis à 20h, à l'auditoire Calvaire, il y aura des chants d'Orient chrétien. Donc ça, c'est samedi prochain, donc à Bourg-de-Four et puis à l'auditoire Calvin. Et puis à la sortie, ben, je vous proposerai, comme d'habitude, le texte de la méditation que je donne, parce qu'effectivement, c'est prévu pour aller un peu ensemble, qui est apprendre et à laisser pour chacun dans ce que je propose. Maintenant, c'est le moment de chanter le psaume, le cantique de louange. Donc c'est le numéro 45 dans notre cantique, le psaume 92. « Certes, c'est chose belle de te louer, Seigneur. » Et pendant le chant de ce psaume, eh bien, notre offrande sera recueillie. Et nous recevons la bénédiction de Dieu sur notre existence tout entière, bénédiction qui est donnée au singulier selon les paroles de Moïse dans le livre des Nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne fidèlement sur la route que tu auras choisie. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, vraiment, sois béni, ô Éternel, notre Dieu à tous et à toutes.